Vous écoutez un podcast RTL Originals.
La lumière du Sud, la mémoire des esclaves et la grâce pour laquelle l'Amérique doit encore prier. Je suis Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis, et voici une nouvelle lettre d'Amérique. Hi everyone. Je suis aujourd'hui au centre de Charleston, en Caroline du Sud. Pour vous repérer, vous prenez une carte des États-Unis, vous voyez la Floride au sud-est, vous remontez la Floride, vous passez en Géorgie, puis c'est la Caroline du Sud et après il y a la Caroline du Nord. Alors si vous entendez un bruit de fond assez curieux derrière moi, en fait c'est la pluie qui frappe sur la voiture où je me trouve. Il pleut assez fort, ça souffle de plus en plus fort puisque j'enregistre cette lettre d'Amérique au soir du mercredi 4 septembre 2019, alors que l'ouragan Dorian s'approche de nous. Ça fait plusieurs jours que je suis et je suis trempé dans mes bottes. J'ai un peu l'impression de sentir le chien mouillé. D'ailleurs, je sens le chien mouillé. Et dans la voiture, en plus, ça sent l'essence parce que j'ai dans le coffre derrière moi 4 gros jerrycans d'essence. C'est difficile de trouver de l'essence quand on couvre un ouragan. Donc, si vous êtes amené un jour à vous retrouver dans un ouragan, premier conseil, faites des réserves d'essence parce que les stations sont vides à des centaines ou en tout cas à des dizaines de kilomètres. Les habitants qui partent font le plein et puis ceux qui restent, essayer de remplir leurs cuves pour leurs groupes électrogènes pour maintenir l'électricité. D'ailleurs, moi, dans quelques heures, enfin en tout cas si ça se passe comme lors de précédents ouragans que j'ai couverts pour RTL, eh bien on va se retrouver sans électricité. Donc je serais bien content d'avoir ces jerrycans dans ma voiture parce que ma voiture me servira non seulement à aller d'abord à m'abriter, ensuite à aller là où il y aura des dégâts. Et puis aussi, ça me servira de grosses batteries électriques puisque je pourrai brancher mon magnétophone, mon téléphone, enfin tout ce dont j'ai besoin pour travailler. Et cette voiture, c'est un peu devenu mon chez-moi pendant quelques jours puisque depuis que je suis parti couvrir l'ouragan en début de semaine, j'ai fait plus de 1900 km puisque j'étais en bas de la Floride. Et puis en tout, je crois que j'ai fait 3000 km en 6 jours, c'est plus qu'un Paris-Moscou. Bon, c'est pas de l'ouragan dont je vais vous parler aujourd'hui. D'ailleurs, quand vous recevrez cette lettre d'Amérique, vous connaîtrez l'issue de cet ouragan que moi je ne connais pas encore. Non, si, même si les circonstances sont un peu particulières, c'est la deuxième fois d'ailleurs en 3 ans que je viens à Charleston couvrir un ouragan. Eh bien, comme à chaque fois que je viens ici, je suis assez ravi d'être à Charleston parce que c'est l'une de mes villes préférées aux États-Unis. En tout cas, c'est l'une des villes les plus charmantes. Et je me souviens avec beaucoup de plaisir la première fois que je suis arrivé ici à Charleston, c'est il y a un peu plus d'une décennie. C'était autour du Nouvel An. J'avais quitté le froid et la neige à Boston pour arriver dans cette petite ville du sud au climat presque tropical. Il faisait pas loin de 20 degrés, il faisait beau. Et la lumière de ce soir d'hiver mettait en valeur tout ce que je vois d'ailleurs à travers la vitre ici, les vieilles maisons coloniales, les palmiers, et même d'ailleurs aujourd'hui, alors qu'il pleut, que les chaussées commencent à être recouvertes d'eau, c'est assez agréable de marcher dans ces petites rues pavées avec de belles façades préservées, de très vieux chênes au large tronc. Il y a beaucoup d'églises à Charleston, notamment des églises gothiques. À chaque rue, de belles demeures avec des colonnes blanches, des balcons sur lesquels on aimerait se reposer en fin d'après-midi sur un rocking chair avec un thé glacé. Certaines de ces maisons sont parfois centenaires. Et je le signale parce que même si c'est très courant en France, c'est très rare aux États-Unis, des villes aussi anciennes, préservées. Un peu comme Savannah, à Géorgie, à 2 heures au sud d'ici. On est vraiment ici à Charleston, dans ce qu'on appelle l'esprit du Sud. Le Sud, c'est vraiment une partie très particulière des États-Unis, avec une culture très particulière, on va en parler. Et en même temps, en observant cette beauté de cette ville fondée à la fin du XVIIe siècle, ce qui est encore une fois très ancien pour un pays aussi jeune que les États-Unis. Et d'ailleurs, à l'époque, Charleston, c'était l'une des villes les plus puissantes d'Amérique. D'ailleurs, ça a été un lieu important de la guerre d'indépendance, car c'est ici qu'a eu lieu le plus long siège par les troupes britanniques pendant la guerre pendant un mois et demi, donc les forces révolutionnaires étaient assiégées. Et bien malgré tout ça, je ne peux pas m'empêcher, en me baladant ici à Charleston, comme à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher d'avoir en tête que cette richesse ici, cette richesse architecturale, culturelle, cet esprit de Charleston est aussi le reflet préservé d'une exploitation inhumaine qui est en quelque sorte le péché originel de l'Amérique. Charleston a été fondée évidemment par les Anglais. Charleston, la ville de Charles, c'est en fait une référence au roi Charles II d'Angleterre, petit-fils d'Henri IV et de Marie de Médicis. Et cette ville a été fondée pour être un port important, et c'est rapidement devenu, c'est ça qui explique sa croissance, c'était le grand port des traites négrières dans ce qui allait devenir l'Amérique. C'est ici que sont arrivés la plupart des esclaves amenés d'Afrique, et ça m'avait frappé il y a 2 ans lorsque j'avais visité pour la première fois à Washington le nouveau musée national d'histoire et de culture africaine-américaine. D'ailleurs, je vous recommande la visite sur le Mall, c'est vraiment passionnant, ça va justement du commerce des esclaves à Beyoncé. Et bien justement, à propos du commerce des esclaves, un chiffre m'avait frappé lors de cette visite. À propos de Charleston, 80% des Noirs américains aujourd'hui ont des ancêtres qui sont arrivés ici à Charleston. En fait, c'est un peu l'équivalent de l'île d'Ellis Island dans le port de New York pour les descendants d'immigrés irlandais ou italiens. C'est ici, à Charleston, le point de départ de l'histoire africaine-américaine. À 3 rues d'ici, il y a le vieux marché aux esclaves, près du quartier français, puisqu'il y a des Huguenots qui sont venus s'installer ici à Charleston. Et cet endroit, c'était en quelque sorte la bourse du commerce des esclaves, qui était... ce commerce était central dans l'économie de ces colonies qui allaient devenir ensuite les États-Unis d'Amérique. Beaucoup d'esclaves se sont retrouvés à travailler dans de grandes plantations alentour, qu'on peut visiter d'ailleurs aujourd'hui, des plantations qui appartenaient à de riches propriétaires qui ont aussi fait bâtir les superbes demeures qu'on peut apercevoir ici à Charleston. Évidemment, il y a beaucoup de villes qui sont enrichies avec le commerce des esclaves, y compris en France. On pensait à Nantes ou à Bordeaux, mais ici c'est différent parce que le commerce des esclaves a été au cœur de l'économie, de la puissance dès l'origine de cette ville de Charleston. Et au fond, à travers cette ville de Charleston, le commerce des esclaves a été central dans l'économie des jeunes colonies d'Amérique. C'est ici aussi d'ailleurs à Charleston qu'a eu lieu en 1739 la plus grande insurrection d'esclaves. Et ils s'étaient ralliés au cri de « liberté ». Pour décrire cette atmosphère, cette architecture, ces traditions, cet esprit qu'on sent ici particulièrement à Charleston, les Américains ont une expression, ils disent que c'est « antebellum ». Alors si vous n'avez pas fait de latin, « antebellum », ça veut dire « ante » avant, « bellum » la guerre. Donc « antebellum », c'est « avant la guerre ». Évidemment, ça veut dire pour les Américains « avant la guerre de sécession », que les Américains appellent la « civil war », la guerre civile. Au début des années 1860, en fait, les États du Sud, donc ici, voulaient faire sécession des États du Nord, qui, eux, voulaient abolir l'esclavage. Or, l'esclavage, c'est sur l'esclavage qu'était fondée l'économie de cette partie sud des États-Unis. Et l'une des premières grandes batailles de cette guerre a eu lieu ici, dans le port de Charleston, où un officier appelé Pierre-Gustave Beauregard, vous l'avez deviné, c'était un aristocrate d'origine française, qui avait d'ailleurs grandi dans une plantation, eh bien, ce Beauregard a mené un combat pour le camp sudiste, donc le camp qui voulait préserver l'esclavage. De manière plus générale, on ne peut pas comprendre les États-Unis d'aujourd'hui sans avoir en tête ce qui s'est joué dans cette guerre de sécession au début des années 1860. Il y avait à l'époque 4 millions d'esclaves aux États-Unis, et la fin de l'esclavage, donc après la guerre de sécession gagnée par le Nord, a ruiné Charleston, qui a rapidement perdu de sa puissance. À l'époque, les 3/4 des habitants de la ville et de ses alentours étaient noirs, et donc enfin libres. C'est toujours aujourd'hui l'un des États, la Caroline du Sud, où la proportion de noirs est la plus importante, un peu moins d'un tiers de la population. Ça fait plus de 150 ans qu'ils sont libres. Plus de 50 ans que les États du Sud ont enfin mis fin à la ségrégation. Mais aujourd'hui, en 2019, le racisme perdure. L'an passé, la ville de Charleston a pris une décision symbolique. Elle s'est officiellement, solennellement excusée pour son rôle dans le commerce des esclaves, mais aussi dans la ségrégation après la guerre de sécession. Et puis, il y a 4 ans, il a été décidé de modifier le drapeau de l'État de Caroline du Sud, qui jusqu'alors était encore le drapeau de la Confédération, c'est-à-dire le drapeau de l'Union des États qui voulait faire sécession des États-Unis pour préserver l'esclavage. Et cette décision a été prise dans la foulée d'un attentat qui a eu lieu ici, à Charleston, le 17 juin 2015. Je m'en souviens parce que je présentais ce jour-là la matinale de RTL, rue Bayard, et j'allais partir m'installer aux États-Unis quelques semaines plus tard. J'étais particulièrement frappé en découvrant cette information qui était tombée peu de temps avant la matinale. J'avais été frappé par cette fusillade qui venait d'avoir lieu ici à Charleston, parce que c'est une ville que j'aimais déjà beaucoup. Un jeune homme blanc d'extrême droite est entré dans une église à 500 mètres d'ici. C'est l'une des plus anciennes églises noires des États-Unis, puisque c'est ici qu'arrivaient les esclaves venus d'Afrique. Elle est toujours fréquentée majoritairement par des noirs. Et ce jeune homme d'extrême droite a tué 9 fidèles qui participaient à un groupe d'études de la Bible. Et quelques jours plus tard, le président Obama est venu ici prononcer l'éloge funèbre de l'une des victimes. Et si je vous en parle, c'est parce que, à mon avis, c'est l'un des moments les plus marquants de sa présidence, les plus révélateurs. C'est le moment qui symbolise ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que son élection n'a pas permis à l'Amérique de tourner la page du racisme, héritée de la ségrégation, de l'esclavage. L'Amérique n'était pas devenue instantanément post-raciste, comme on dit ici, du jour au lendemain, par la simple élection du premier président noir. D'ailleurs, Barack Obama n'est pas un descendant d'esclaves. Son père était africain, kényan, sa mère blanche venait du Kansas. À la différence de son épouse, Michelle, et de leur fille, Sacha et Malia, qui ont des ancêtres, qui ont été esclaves dans une plantation un peu au nord de Charleston, ici. Ça veut dire que leurs ancêtres sont arrivés dans le port qui est à côté de là d'où je vous parle, pour être vendus. Et il savait tout ça, évidemment, Barack Obama, lorsqu'il est venu ici à Charleston pour prononcer cet éloge funèbre. Et c'est avec cela, d'ailleurs, que je conclus cette lettre d'Amérique, ici, depuis Charleston, en Caroline du Sud, avec un extrait de ce discours, lorsque le premier président noir, dans la ville où sont arrivés les ancêtres de 80% des Noirs américains, a surpris tout le monde, quelques jours après un attentat raciste dans une église, en entonnant le chant religieux « Amazing Grace », en espérant, en fait, que cette Amérique trouve cette grâce étonnante pour la protéger de ses démons. Thank you and goodbye.
Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was fallen.
Vous pouvez retrouver toutes ces lettres d'Amérique et les autres podcasts RTL Originals sur rtl.fr.